Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Et voici un premier journal dans cette matinale. Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 6h.
Il y a 7000 pharmacies qui ont reçu un flacon de vaccin. Donc il y aura 70 000 personnes vaccinées par les pharmaciens à la fin de ce week-end ou lundi ou plus tard.
Dès aujourd'hui, des milliers de pharmaciens vont pouvoir vacciner à leur tour. Ils entrent dans cette campagne, cette course contre la montre. L'épidémie par endroits repart de manière irrépressible.
Et c'est le cas notamment de la région Île-de-France. Certains hôpitaux sont déjà surchargés. Des dizaines de patients devraient être transférés vers d'autres régions dans les jours qui viennent.
Le ministre de l'Intérieur était au tribunal hier, confronté à la femme qu'il accuse de viol. Dans cette affaire, Gérald Darmanin est placé sous le statut de témoin assisté.
Et puis les salles de cinéma sont fermés, mais les Césars se sont tenus hier soir, cérémonie marquée par le triomphe d'Albert Dupontel.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce sont des scènes que l'on a vécues il y a un an, qui vont se répéter massivement dans les jours qui viennent. Des dizaines et des dizaines de patients vont être transférés d'un bout à l'autre de la France.
Plus de 1000 malades du Covid sont actuellement hospitalisés dans les services de réanimation d'Île-de-France. C'est la région qui inquiète les autorités aujourd'hui. Les projections font craindre un engorgement dans les jours à venir. Il faut donc libérer des lits et ça pourrait commencer dès demain vers la Nouvelle-Aquitaine. Nicolas Feldman.
Il s'agit de 3 transferts en avion, une option étudiée hier soir dans une réunion entre les acteurs de santé du Sud-Ouest. Au total, l'ARS évoque une 60aine de patients franciliens à répartir entre les hôpitaux de Bordeaux, de Limoges et de Poitiers. Certains pourraient être évacués à bord de TGV médicalisés, mais des détails logistiques restent à régler. François Braun, président du SAMU Urgence France.
D'expérience, on sait que la mise en place d'un TGV sanitaire avec 24 patients, il faut 48-72 heures pour que ce soit totalement opérationnel. Là aussi, il y a un an, les trains ne roulaient plus, donc les voies étaient entièrement disponibles. Là, il y a une activité ferroviaire, donc il va falloir s'intercaler dans cette activité ferroviaire. Bref, des petites questions tactiques, locales, qu'il va falloir adapter.
Mais les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine, eux aussi, vont devoir s'adapter. Sur place, certains soignants ne cachent pas leur malaise. Accueillir des patients franciliens, pour eux, cela veut dire déprogrammer des opérations dans des services de réanimation déjà sous pression.
Le gouvernement espère qu'en libérant des lits en Île-de-France, le reconfinement de la région ne sera pas indispensable. Mais le Premier ministre, Jean Castex, s'est dit prêt hier à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire.
Dans cette lutte contre le Covid, l'exécutif attend aussi les effets de la vaccination.
Plus de 300 000 doses ont été injectées hier, c'est un nouveau record. Et dans cette campagne, les pharmaciens vont entrer en jeu, certains dès aujourd'hui. Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Il y a des listes d'attente pour la vaccination qui sont faites dans chaque officine, pour les patients de l'officine. Ce sont des listes d'attente qui respectent une priorisation, puisqu'il faut être âgé de plus de 50 ans et avoir une affection de longue durée, ou être âgé de plus de 75 ans pour être dans cette cible prioritaire. C'est à partir de cette liste d'attente qu'ensuite nous appelons les patients. En fait, il y a 2 problématiques. La première problématique, c'est d'identifier bien sûr les personnes qui veulent se faire vacciner. C'est à vous de faire la démarche. Et ensuite, c'est un autre problème, c'est quand nous recevons les vaccins, parce qu'ils sont très rares en ce moment, et c'est quand nous recevons les vaccins que nous appelons les patients dans l'ordre de la liste. Il y a 7000 pharmacies qui ont reçu un flacon de vaccin, donc il y aura 70 000 personnes vaccinées par les pharmaciens à la fin de ce week-end ou lundi ou plus tard.
Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Oui, parmi les vaccins, AstraZeneca est boudé par plusieurs pays d'Europe. Ce sont soit des lots, soit carrément le vaccin qui est interdit sur leur territoire. Maintenant, Johnson qui arrive sur le marché. Que croire sur tous ces vaccins, sur cette campagne de vaccination? Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de Santé, notre invité à 8h15.
La confrontation a duré 9h hier au tribunal de Paris. D'un côté, une femme qui a porté plainte pour viol. De l'autre, le premier flic de France, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. C'est la première fois que les deux parties se retrouvaient devant le juge. Hier soir, le ministre est reparti comme il est arrivé, sous le statut de témoin assisté. Les précisions de Jean-Jacques Herry.
Après avoir longuement écouté pendant 9 heures les arguments et les explications des deux parties, la juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en cause Gérald Darmanin. Les faits qui ont été évoqués hier jusque tard dans la soirée dans le bureau de la juge datent de 2009. La plaignante avait alors demandé l'aide de Gérald Darmanin pour faire réviser une condamnation et quelques jours plus tard, dit-elle, elle s'était sentie obligée d'avoir une relation sexuelle avec lui pour obtenir son appui. De son côté, l'actuel ministre de l'Intérieur, lui, évoque une relation consentie sans aucune contrainte ni contrepartie. Une version des faits bien différente que plaignante et accusée avaient déjà chacun évoqué séparément devant un juge. La confrontation était la suite directe de ces auditions. Elle devait permettre de peser et sous-peser les contradictions entre les deux parties. À l'arrivée, c'est donc le statu quo. Dans un communiqué, les avocats de Gérald Darmanin y voient la preuve qu'aucun indice grave ou concordant d'une quelconque infraction n'est reproché à leur client. Du côté de la plaignante, pour le moment, aucune réaction.
Les précisions de Jean-Jacques Héry.
À Argenteuil, en région parisienne, l'enquête se poursuit après la mort d'une collégienne jetée dans la Seine lundi dernier.
Deux adolescents sont mis en examen pour assassinat. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille était harcelée sur les réseaux sociaux.
En France, un jeune sur quatre dit déjà avoir été victime de harcèlement sur Internet. C'est pour lutter contre ces pratiques qu'une plateforme a été lancée en 2009, Net-Écoute. Ces derniers temps, la ligne est tout simplement débordé. Reportage de Zoé Palier.
Net écoute, bonjour. D'accord. Il continue de vous demander de l'argent ou pas? Est-ce que vous avez cédé au chantage?
Au bout du fil, une jeune fille démunie. Son ex-petit copain diffuse sur Snapchat une vidéo d'elle dénudée. Une histoire de revenge porn. Guillaume en écoute une dizaine par jour. Il lui explique le protocole à suivre.
Signaler son compte, bloquer le bien, imprimer les captures d'écran de manière à pouvoir déposer plainte et puis remplissez le formulaire qu'on vous a transmis de manière à ce que nous on puisse agir sur la suppression de ces comptes.
Cette année, 20% des appels ont conduit à des fermetures de comptes, parfois quelques minutes seulement après le signalement, se félicite Samuel Comblé. Il est directeur des opérations de l'association.
Il y a beaucoup de messages qui sont envoyés tous les jours aux réseaux sociaux. Ils n'ont pas forcément le temps, la réactivité. Et donc nous, on constitue un véritable dossier avec vraiment des preuves à l'appui. On facilite le travail du réseau social, ce qui fait que lui, en retour, accélère considérablement la prise en charge de la victime.
Chaque semaine, des anciennes victimes appellent pour remercier les écoutants, leur harceleur a été condamné, parfois à la peine maximale, 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende.
Un reportage de Zoé Palier.
Harcèlement sur Internet, bande rivale, rixes entre jeunes de 14 ans et parfois même moins. Que penser de cette jeunesse qui s'entretue? La secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry, est mon invitée tout à l'heure à 7h40. Il est 6h06, place et direction aux États-Unis avec la ville de Minneapolis qui s'apprête à verser 27 millions de dollars à la famille de George Floyd.
Les proches de cet homme noir tué par un policier blanc l'an dernier ont décidé de poursuivre la municipalité au civil. C'est une démarche différente du procès qui se tient depuis le début de la semaine au pénal. Dans cette procédure civile, un accord à l'amiable a donc été trouvé. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. 27 millions de dollars, c'est un record.
Oui, et il permet à la ville de Minneapolis d'éviter un procès avec la famille Floyd après la plainte déposée au civil en juillet dernier. Pour Ben Crump, l'avocat de la famille, cet accord est historique et envoie un message. La vie de George Floyd compte, la vie des Noirs ne sera plus considérée comme insignifiante, sans importance ou indigne de conséquences. Alors ces dernières années, ces accords à l'amiable avec les familles de victimes de violences policières sont devenus plus fréquents. En septembre, par exemple, Louisville, dans le Kentucky, a payé 12 millions de dollars aux proches de Breonna Taylor, jeune femme tuée par balle lors d'une perquisition. Brandon Williams, le neveu de George Floyd, espère que les pratiques policières vont enfin changer. Très ému, il souligne qu'aucune somme d'argent ne pourra soigner cette douleur, aucune somme d'argent ne pourra ramener George Floyd pour qu'il voit ses enfants grandir. Les yeux de la famille restent tournés vers le palais de justice de Minneapolis. La sélection du jury se poursuit dans le procès de Derek Chauvin. L'ex-officier de police inculpé pour meurtre et homicide involontaire risque jusqu'à 40 ans de prison.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis outre-Atlantique, le plan de relance de Joe Biden a été approuvé cette semaine. Il prévoit une aide pour les Américains les plus pauvres. Eh bien, les premiers chèques seront envoyés dès ce week-end.
La page des sports, Marguerite, et en foot, c'est une occasion ratée pour Lyon. L'OL n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul hier soir face à Reims.
Les hommes de Rudy Garcia aurait pu reprendre la tête du championnat. C'est raté et ça chagrine l'entraîneur lyonnais.
Si on n'a pas réussi à égaliser plus tôt et à gagner ce match, c'est parce qu'on a joué que 45 minutes. J'ai fait 3 changements à la pause, mais j'aurais pu en faire 11. Mais je pense que c'est ni tactique ni technique. C'est vraiment une histoire d'envie et de détermination. Après, tout n'est pas négatif dans le sens où on a égalisé sur la fin. Même si j'aurais aimé qu'on égalise plus tôt parce qu'on aurait... On aurait certainement gagné, mais bon, il y a trop d'écart entre mièvre première période et une deuxième période aboutie.
Ce soir, il y aura deux rencontres, Angers-Saint-Etienne à 13h et Marseille-Brest à 17h. Notez qu'en handball, les Bleus ont réussi leur entrée en matière. Ils disputent le tournoi de qualification olympique à Montpellier et ils ont battu la Croatie hier soir.
Ils sont fermés depuis le 30 octobre dernier et pour certains, eh bien, l'attente est trop longue. Plusieurs cinémas, entendez bien, ont décidé de rouvrir leurs portes aujourd'hui.
Oui, le temps d'une séance, le temps de retrouver un semblant de contact avec le public privé de salles obscures depuis des mois. Gauthier Labrusse, le directeur du cinéma Luxe à Caen, a décidé de braver l'interdit.
On n'a pas choisi le jour par hasard. Évidemment, c'est la symbolique est là, le lendemain des Césars aussi. Plus on attend, plus le retour dans les salles va être compliqué. Sans compter qu'il y a 400 films qui sont sur les étagères, qui attendent de sortir. On va aller vers un emboutillage terrible au moment de la rouverture. Donc si les choses traînent trop, si des annonces ne sont pas faites rapidement, et c'est ce qu'on cherche à provoquer en fait, effectivement, il faudra trouver des solutions plus radicales, parce que là, on frôle la catastrophe là.
Ce directeur de cinéma l'évoquait donc avec Angèle Châtelier. Nous sommes au lendemain des Césars, cérémonie marquée hier par les revendications du secteur de la culture. Les artistes ont unanimement réclamé la réouverture des lieux culturels.
Ouais, ils ont célébré leur art avec un grand gagnant, Albert Dupontel, le palmarès des Césars 2021 avec Mathieu Charrier.
C'est la comédie sociétale absurde Adieu les cons d'Albert Dupontel qui a triomphé hier soir. Cette récompense, dont celle de meilleur réalisateur et de meilleur film, pour l'histoire de Suzy, cette coiffeuse condamnée par la maladie et qui va partir sur les traces du fils qu'elle a abandonné à la naissance. Albert Dupontel qui n'était pas présent à l'Olympia. Le César de la meilleure actrice revient alors qu'à l'ami qui part à la poursuite de son amant et sa famille en randonnée dans les Cévennes accompagnée par l'âne Patrick. Alors qu'à l'ami qui a un message pour le milieu du cinéma.
Qu'on se dise pas au balin César, elle va pas vouloir faire ceci ou cela, j'espère que non.
La récompense de meilleur acteur revient à Samy Bouajila, en père désabusé dans Un fils, lorsqu'il apprend que son fils justement qu'il essaie de sauver n'est finalement pas son fils biologique. À noter aussi les trois Césars pour le documentaire adolescent de Sébastien Lifshitz qui a suivi deux ados de Béziers de leurs 13 à leurs 18 ans.
Le film s'est arrêté juste avant la crise du Covid. Évidemment, je m'inquiète et je pense à elle et à ce futur voilà, qui les attend.
Et déception en revanche pour Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret, pourtant dans le peloton de tête des nominations et qui doit se contenter d'une seule récompense, meilleure actrice dans un second rôle pour Émilie Dequen. À noter que tous ces films ressortiront en salle dès la réouverture des cinémas.
Voilà pour le palmarès des Césars 2021 avec Mathieu Charrier.